heureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va te cueillir en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Juliette Gréco, Le temps des cerises, c'est une des chansons de la Commune de Paris, 1871, date à laquelle naissait Rosa de Luxembourg, dont nous parlons aujourd'hui à propos d'une biographie écrite par Max Gallo et dont nous parle Annette. Alors Annette, tu viens de nous le dire, à un moment donné, Rosa de Luxembourg a dû s'exiler en Suisse. Elle y fait ses études et lorsque ses études sont finies, elle va partir pour l'Allemagne.
Oui, finalement, c'est ce qu'elle désire. Elle désire rejoindre le Parti socialiste allemand qui est à l'époque très actif, très militant, et elle se sent tout à fait proche de ces gens-là. Elle a fait connaissance avec plusieurs de ces exilés politiques à Zurich. Là, elle a appris évidemment la langue allemande. Et elle a l'occasion de repartir définitivement de la Suisse pour s'installer à Berlin. Et c'est en fait à Berlin qu'elle va vivre une bonne partie, la deuxième partie de sa vie. C'est là aussi qu'il sera assassiné d'ailleurs en retournant dans son appartement à la fin de la première guerre, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, elle aura un moment où effectivement, elle va vivre ce qu'elle espérait, c'est-à-dire avoir exercé une influence assez importante autour d'elle et essayer de convaincre le parti et aussi les masses de la justesse de sa cause, enfin de la cause socialiste, révolutionnaire, et aussi, bien sûr, de l'antimilitarisme. Parce qu'en fait, elle s'est très vite affiliée à l'international. C'est l'époque des internationalistes, hein, voilà, il faut le rappeler, et dont un des buts principaux était quand même d'arrêter l'effort de guerre Et devant l'échec de la déclaration, même à ce moment-là, en 1914, d'essayer de convaincre les soldats engagés qu'ils se battaient pour un pouvoir qui les humiliait et les exploitait, et qu'il fallait absolument se diriger vers d'autres modes de société. Et dans ce sens-là, avant 1914, depuis les années 1908, 9, 10, etc., elle a participé à tous les congrès, et elle s'est fait entendre à beaucoup de tribunes. Elle était quelqu'un qui était extrêmement convaincant, comme on l'a dit tout à l'heure, très courageux, très combatif. Et elle a fait vraiment énormément d'efforts. Elle a écrit beaucoup d'articles, prononcé beaucoup de discours pour essayer de convaincre autour d'elle. Elle y croyait vraiment absolument à fond. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, je trouve, quand on lit ce livre, c'est qu'on se dit tous les efforts qu'elle a fait, tout ce combat qu'elle menait, elle donnait tout d'elle-même, avec des idées quand même extrêmement arrêtées, et sans peut-être se soucier parfois elle avait des idées théoriques, et elle connaissait peut-être mal, en fait, les gens simples qu'elle défendait. J'ai l'impression que là, il y a encore beaucoup à creuser pour comprendre bien les rapports qu'elle avait, elle, avec les gens simples qui n'avaient pas, comme elle, la formation intellectuelle et universitaire qu'elle possédait.
Peut-être, Annette, il serait bon de résumer en quelques mots ce à quoi elle croyait si fort. Est-ce qu'elle croyait à des réformes sociales à faire pour que le peuple vive mieux? Est-ce qu'elle défendait l'idée d'une révolution, d'un changement total de système social et politique?
Elle voulait la démocratie. Pour elle, c'est vraiment ça qui l'intéressait le plus. Mais en même temps, elle est tout à fait consciente des limites de cela. Elle a, d'une part, applaudi aux idées de Trotsky, Lénine qui préparaient la révolution russe, et très vite elle a vu que ça pouvait quand même déraper très facilement. Elle a été visionnaire face à ce qui se passait à ce moment-là, et elle a toujours défendu d'abord la vie. Pour elle, ce qui comptait, c'était le respect de l'autre.
Mais donc, elle, si tu dis qu'elle a très vite discuté et remis en cause les idées de par exemple, des Russes qui, justement, préparaient leur révolution et se partagent ensuite entre mensheviks, bolcheviks, etc. Par exemple, elle n'imaginait pas qu'on puisse défendre des idées instaurant un système socialiste, par exemple, et en même temps imposer une dictature,
voilà,
aux
absolument.
Gens pour amener cette nouvelle ère de liberté.
Et même exercer des violences corporelles. Il y a un moment donné où Lénine a ordonné la pendaison de 200 socialistes russes qui n'étaient pas d'accord tout à fait avec lui. Et quand elle a appris cela, pour elle, ça a été vraiment l'évidence qu'il se trompait lourdement et qu'il courait à l'échec.
Alors, tu veux nous lire un petit passage qui exprime bien cette force que donnait Rosa Luxembourg l'idée de défendre toujours la démocratie.
Cependant, sa critique la plus acérée, la plus prémonitoire de la révolution, Rosa la formule à propos de la démocratie. Jamais sur ce point, Rosa n'a varié. Elle est pour le débat, pour la confrontation des idées. Elle croit à la vertu des analyses et de la raison pour éclairer, enseigner les masses. La révolution bolchévique n'a que quelques mois et déjà elle décèle des signes inquiétants. Les bolcheviks ont dissous l'assemblée constituante qu'ils avaient convoquée parce qu'elle leur était hostile. Ils ont limité le droit de vote selon l'appartenance des électeurs à tel ou tel groupe social. Rosa est, de ce point de vue, une intellectuelle dont la vie s'est tout entière déroulée dans les pays où fonctionnait le suffrage universel. Elle aime la liberté, elle croit à son rôle décisif. La liberté pour les seuls partisans du gouvernement, écrit-elle, pour les seuls membres du parti, aussi nombreux soient-ils, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est toujours au moins la liberté de celui qui pense autrement. Lénine se trompe intégralement, poursuit-elle dans l'emploi des moyens. Décrets, puissance dictatoriale des inspecteurs d'usines, sanctions draconiennes, terreur, ce ne sont là que des palliatifs. La seule voie qui mène à une renaissance est l'école même de la vie publique, une démocratie très large, sans la moindre limitation, l'opinion publique. C'est justement la terreur qui démoralise.
Alors, Annette, la démocratie, c'est un cheval de bataille très important de Rosa Luxembourg. Et tu disais tout à l'heure aussi la lutte antimilitariste, anti-guerre. Enfin, je ne sais pas comment elle qualifiait cette bataille à l'époque où elle la menait. Mais en tout cas, c'était une position très difficile à tenir, effectivement, au moment où l'Europe allait s'entre-déchirer dans une première guerre mondiale.
Absolument. Et donc, elle a été, depuis 1914... justement au moment de l'assassinat de Jean Jaurès, pour elle, ça a été vraiment le début de la fin d'une vie extrêmement difficile et décourageante. Malgré le fait qu'elle voyait devant elle tout partir, tout ce en quoi elle avait cru, plus rien n'existait. Tout allait contre ses idées, en fait. Et elle a été extrêmement triste, extrêmement découragée, mais elle a toujours gardé l'énergie quand même de lutter. Elle a dû faire, à ce moment-là, elle a été emprisonnée plusieurs fois.
Oui, parce je voulais justement te dire, voit qu'elle a été emprisonnée plusieurs fois.
Oui, alors on raconte plusieurs fois les moments d'emprisonnement qu'elle a vécu, où elle a toujours gardé une énergie et une dignité personnelle qui est extraordinaire et qui est très bien mise en évidence par le texte de Max Callot. Ça, j'ai trouvé que c'était très... Il faisait une part très belle à ce côté-là. On sent à quel point il a communiqué, en fait, grâce à la lecture des écrits de cette femme. Et dans ce sens-là, je crois que c'est intéressant de comprendre un peu mieux comment elle a pu, jusqu'au bout, affirmer sa position, même si, devant elle, il était clair qu'elle s'était trompée. En tout cas, que ses espoirs étaient complètement déçus par les actes politiques qui se déroulaient devant elle. Et je trouve qu'un des mérites aussi de ce livre, et j'aimerais bien finir par là, c'est qu'il y a pas mal d'extraits, j'en ai lu un tout à l'heure, des textes de Rosa Luxembourg. Max Gallo s'est beaucoup appuyé sur sa correspondance ou sur des articles qu'elle a écrits pour les journaux d'extrême gauche. Et je crois que ça, c'est aussi une façon d'entrer un petit peu dans l'univers de cette femme. Et ça donne d'ailleurs envie de peut-être lire d'autres textes d'elle mis en page ou réédités.
Finalement, lorsque tu as achevé la lecture de ce portrait immense de Rosa Luxembourg, si tu devais nous faire un portrait comme ça, en contraste, parce que je crois que c'est ça qu'on découvre, c'est une femme très contrastée qui, comme on le disait tout à l'heure, peut être à la fois blessée dans son corps, humiliée dans sa situation, puis en même temps complètement passionnée, oui, défendant ses idées envers et contre tout, jusqu'à y laisser, y donner sa vie.
Quitte à être de mauvaise foi, je pense, à certaines occasions.
Et c'est ce qui t'a frappé dans ce personnage, c'est ces contrastes, ces heures, cette femme qui agit beaucoup, puis en même temps, qui prend le temps de penser, de réfléchir. Est-ce que la femme a un rôle particulier à jouer, dans le sens qu'à son époque, ce qu'elle faisait, elle, en tant que femme, était une chose que peu de gens pouvaient comprendre?
C'est pas ce qui m'a le plus frappé à cette lecture. C'est plutôt son assurance personnelle et la confiance qu'elle avait en elle. On dit souvent que les femmes n'ont pas assez confiance en elles pour prendre des positions, pour s'affirmer dans certains postes. Et je pense qu'elle, c'est comme si elle avait d'emblée acquis une position à l'égal de ses... des gens qu'elle côtoyait, des hommes surtout qu'elle côtoyait. Mais d'ailleurs, elle raconte plusieurs fois qu'il y avait un certain nombre de femmes, à Berlin notamment, qui militaient pour la cause féministe. Elle, c'est pas celle-là qui l'intéressait. Mais elle avait des amis qui militaient et avec qui elle avait des contacts. Mais je crois que c'est surtout son engagement pour les plus faibles que j'ai trouvé, moi, le plus touchant.
Alors pour terminer, je vais vous passer une chanson qui évoque l'engagement contre la guerre de Rosa Luxembourg. Et c'est une chanson qui a pour titre « Les conscrits insoumis » et qui a été écrite par Aristide Bruand dans cette fameuse époque de la belle époque pour certains, comme on vient de le dire, mais de loin, pas pour tout le monde. Et malgré tout, il y avait quand même des gens qui étaient en accord avec les idées de Rosa Luxembourg. En tout cas, dans cette chanson, on le retrouve tout à fait.
Allons enfants des prolétaires, on nous appelle au régiment. On veut nous faire militaires pour servir le gouvernement. Nos pères furent très dociles à des règlements incompris. Nous nous serons moins imbéciles, les insoumis, les insoumis. Nous nous serons moins imbéciles, les insoumis, les insoumis. On nous dit d'avoir de la haine pour les germains envahisseurs, de tirer Alsace et Lorraine d'entre les mains des oppresseurs. Que nous font les luttes guerrières des affameurs de tout pays? Nous ne voulons plus de frontières, les insoumis, les insoumis. Nous ne voulons plus de frontières, les insoumis, les insoumis. On nous parle en vain de patrie, nous aimons les peuples divers. Nous allons porter l'anarchie sur tous les points de l'univers. Au jour de la lutte finale, les réfractaires tous unis feront l'internationale des insoumis, des insoumis. Feront l'internationale des insoumis, des insoumis. Quand nous allons dans les casernes où l'on cherche à nous abrutir avec un tas de balivernes auxquelles il faut obéir, parlant de grève générale à tous les frères endormis, nous préparons la sociale, les insoumis, les insoumis. Nous préparons la sociale, les insoumis, les insoumis. Si les bourgeois font la revanche, ce jour les peuples révoltés s'élanceront en avalanche, les bourgeois seront emportés. Si le soldat est notre frère, les gradés sont nos ennemis, car ils ont déclaré la guerre aux insoumis, aux insoumis. Car ils ont déclaré la guerre aux insoumis, aux insoumis.
C'était Marc Augeret, qui nous chantait cette chanson qui a pour titre « Les conscrits insoumis » qui avait été écrite à l'époque par Aristide Bruand. Et nous changeons complètement d'époque. Nous nous retrouvons aujourd'hui et c'est Gianna Nannini qui nous entraîne dans le monde de l'homme, de l'identité masculine.
Thank you.
Un ragazzo con te, c'est Gianna Nannini, un garçon comme toi. Eh bien, qu'en est-il de ces garçons XY qui portent les chromosomes XY? Evelyne, c'est de ça que tu vas nous parler, puisque tu vas nous présenter le livre écrit par Elisabeth Badinter, XY de l'identité masculine.
La première chose que je voulais dire, c'est que Elisabeth Badinter, à mon sens, n'est pas l'auteur unique de ce livre, même si on ne voit que son nom sur la couverture. D'ailleurs, elle rend tout de suite hommage et elle remercie tous ceux qui l'ont aidée à construire ce livre. Mais il faut dire qu'elle s'est beaucoup inspirée de recherches en Europe, c'est-à-dire dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, des pays scandinaves, de Suède, du Danemark, de Hollande, qui sont cités évidemment chaque fois, mais aussi d'autres pays d'Europe plus méridionale, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, beaucoup de recherches là-bas aussi, elle les connaît, elle les a analysées et puis elle nous les redonne. Elle a fait appel à l'anthropologie parce que évidemment elle a regarder la condition masculine et la manière dont se construit un homme dans les différentes cultures. Et là aussi, elle fait appel à beaucoup d'auteurs. Elle a aussi élaboré ce livre à la suite de 6 séminaires qu'elle a fait avec ses étudiants à Paris, je crois. Donc on peut bien deviner que les étudiants ont apporté quelque chose aussi, parce qu'ils ont certainement beaucoup discuté pendant ces séminaires. Et puis elle a aussi puisé alors abondamment dans la littérature, dans les romans écrits par des hommes sur les problèmes des hommes. Et apparemment, il y en a beaucoup. Moi, je les ai découverts. C'est ça le malheur quand on lit trop de livres écrits par les femmes, tu vois.
Voilà, on commence à
perdre. Il est absolument important mais je sais qu'Annette, elle le fait beaucoup, de lire les livres écrits par les hommes.
Les romans, en tout cas. Mais d'ailleurs, elle le fait remarquer dans son introduction, non ? Où elle dit que, justement, il suffit de lire les romans masculins de ces dernières années pour se convaincre que la remise en question des certitudes masculines est une chose qui est vraiment à l'ordre du jour pour les hommes, parce qu'on retrouve...
Oui, mais elle a puisé aussi dans la littérature du début du siècle.
Ah bon ?
Elle est allée chez, surtout par exemple, la littérature austro-allemande, parce qu'on y voit apparaître là une crise d'identité assez profonde.
Parce qu'elle a l'air de dire que la crise, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Hein. Il y a eu des étapes
non,
à travers
il y a eu d'autres
les âges,
crises.
Il y a eu plusieurs crises.
Alors, c'est ça que je voulais souligner. Au fond, c'est ça. Sa capacité de synthèse, d'abord, d'avoir assimilé, analysé toutes ses recherches et d'être capable, au fond, de nous donner quelques grandes tendances. Et c'est quand même important. Et c'est utile aussi, je dirais, un livre comme celui-là, même si, évidemment, il aura les désavantages d'un livre qui, je ne veux pas dire qui vulgarise, mais qui est obligé de garder que les idées générales et puis de laisser de côté, au fond, toutes les recherches approfondies, détaillées, qui ont donné lieu, finalement, à peut-être une seule idée. Et il en faut des fois beaucoup pour arriver à une idée. Mais c'est utile pour nous d'avoir cette synthèse. Et puis, on a toujours, évidemment, toutes les références auxquelles on peut se rapporter si on veut savoir les choses plus en détail. Donc, c'est pour moi, c'est un livre intéressant. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre aussi chaleureux. C'est un livre, je ne sais pas comment dire, affectueux, d'une femme qui aime les hommes et qui est une amie et qui au fond qui voudrait qu'on arrive à dépasser cette éternelle guerre des sexes dont on parle beaucoup et puis qu'on a livré depuis très longtemps.
Elle avait d'ailleurs écrit déjà un livre un peu sur ce thème de cette réconciliation, puisque avec pour titre l'un et l'autre.
Oui, pour lequel on l'a beaucoup critiqué aussi.
Voilà.
Je préfère, je dois dire, celui-ci à ce livre-là. Hein. Je le préfère beaucoup. Il me semble que elle est revenue d'ailleurs sur certaines choses qu'elle avait dit dans l'autre livre. Bien, alors effectivement, il y a. Et ce n'est pas elle qui le dit, j'entends les hommes le disent. Il y a une crise d'identité masculine aujourd'hui. Et comme tu le disais, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Ce n'est surtout pas la première fois dans l'histoire occidentale. Ça va être quand même de la société occidentale dont on va parler ici. Et il y a une crise assez célèbre, mais qui n'a lieu au fond que dans les classes dominantes au XVIIe, XVIIIe siècle, et qui est signalée par la présence des précieuses, comme les appelait de l'époque, qui étaient les femmes qui ont mis en question le type d'homme auquel elles avaient affaire dans leur époque. Et bon, on les a beaucoup critiquées, ces précieuses ridicules, comme on disait d'ailleurs à l'époque.
Monsieur Molière
disait ça. Mais elles, et même si elles n'ont pas été très nombreuses, disons, à leur époque, il semble que leur influence, elle, a été quand même assez notable. Mais je ne m'attarde pas là-dessus, on n'a pas le temps. Il y a une autre crise qui s'amorce vers la fin du 19e siècle, le début du 20e. C'est l'époque de Rosa Luxembourg. Et là, c'est une crise, au fond, qui est due aux transformations de la société industrielle qui passe, c'est-à-dire d'une société qui était plutôt agricole, qui devient industrielle en Amérique du Nord et en Europe, et qui change énormément les activités économiques, qui change les travaux des hommes et des femmes dans la société, qui, entre autres... éloigne le père du foyer, puisqu'il va devoir aller travailler en usine ou dans un bureau et ne va plus être le paysan qui travaille avec sa femme ou bien le petit commerçant qui accompagne sa femme, etc. Enfin, en gros, ça va éloigner les pères du foyer. Donc, ça va changer les responsabilités des parents au sein de la famille. Les femmes acquièrent de plus grandes responsabilités du fait même qu'elles restent toutes seules à la maison avec les enfants, ou en tout cas elles restent seules pour décider des enfants. Donc il y a tous ces changements. Il y a des changements dans le type d'activité de l'homme. Il a moins besoin de sa force physique, il a moins besoin de son imagination, il a moins besoin de son esprit d'initiative, je dirais, pour accomplir les tâches beaucoup plus mécaniques et beaucoup plus ennuyeuses qu'apporte cette société industrielle qui se met en place. Et il perd l'occasion, d'une certaine manière, de mettre en valeur ce qu'on lui avait toujours dit qu'il devait être pour être un vrai homme. Hein, c'est-à-dire fort, imaginatif, relevant des défis, etc. Franchement, quand on est rond de cuir dans une administration, on n'a plus tellement besoin de ça pour gagner sa vie. De même quand on presse un boulon dans une usine. Donc tout ça, tous ces éléments vont apporter une crise à cet homme de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Et dit-elle, de nouveau pas seulement à elle, mais avec tous les gens qui sont un peu derrière elle, c'est au fond un petit peu la Première Guerre mondiale qui va servir d'exutoire à cette crise d'identité et à ce malaise.